Radio Campus Tour, 99.5 FM.
Dans l'espace, oula, attention, c'est un petit peu fort. Allez, c'est parti. Dans l'espace, personne ne vous entendra crier. À la radio, personne ne vous verra agir. En politique, personne ne vous verra voler. C'est dans ce contexte un peu particulier que nous, c'est la faute à la manette, sommes toujours prêts à vous divertir et à vous faire oublier le temps d'une heure tout ce qui déconne un peu dans cet univers. Cette émission est garantie 100% second degré et ouverture d'esprit. Nous nous devons de faire preuve en tant qu'accro à ce média d'ouverture d'esprit. Média qui fut si impopulaire et qui continue de l'être au fil des événements de l'actualité. À cela, nous vous invitons à ne pas vous formaliser. Nous vous invitons donc à rester ouvert d'esprit, à toujours prendre en compte l'opinion de chacun, mais surtout à ne jamais oublier vos rêves. Ce grand message d'espoir étant passé, nous allons pouvoir commencer l'émission, manger ces délicieux sandwichs préparés par nos femmes qui sont restées à la maison et boire de la 1664 tout en nous grattant les couilles. C'est la faute à la manette 35, c'est désormais parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 35e numéro de C'est la faute à la manette. Nous sommes ensemble de 20h à 21h sur Radio Campus Tour. Cette semaine, on va revenir sur Mass Effect Trilogy, la célèbre saga spatiale de BioWare. On signe le retour des news marquantes de la semaine, un coffre de Ferdien, je crois, ce soir.
Exactement.
Exactement, Tom qui nous présentera un jeu bizarre The Flame in the Flood. Et mon propre retour sur Zelda Breath of the Wild après 45 heures de jeu et après avoir battu le boss de fin. Et on finira bien sûr par le fameux quiz. Avec moi autour de la table, il a perdu toutes ses saves à Dark Souls 3, c'est Guillaume. Bonjour Guillaume.
Bonjour, je suis triste.
Il décapsule ses bouteilles avec des testicules de chameau, c'est Tom.
Petite précision, de kangourou.
De kangourou. S'il vous
plaît. Salut à tous, salut Julien.
Il n'est pas grand, mais il est vaillant. Il est tout petit, mais c'est mon ami. Ce n'est pas Kirikou, mais c'est Ferdi. Bonjour Ferdi.
Bonjour à tous.
Elle nous vient notamment de Plan Séquence. Elle est le poulpe multitâche de la radio, c'est Gripsy. Bonjour Gripsy.
Allô à poulpe avec plein de bras.
Et on a un invité qui était déjà venu la dernière fois. Comment t'appelles-tu, invité ?
Toujours Mathis.
Toujours Mathis. Tu voulais pas changer de nom ?
Non, je restais là-dessus, ça me paraît bien.
Et que t'as le droit en fait à la radio.
T'as le droit à la radio.
C'est vrai, alors appelez-moi Sushi alors.
Sushi.
Ok, okay.
Sushi.
Wow. Sushi.
C'est acté.
Tu seras donc Sushi pour la prochaine heure, donc c'est parti. Est-ce qu'on aura un jingle qui marche
Bah voilà, regarde.
Eh, hey, impeccable. Le jingle news fonctionne parfaitement. C'est le retour des news marquantes de la semaine et on commence tout de suite par toi, Tom. Qu'est-ce qui t'a marqué cette semaine ?
Alors, dans cette semaine, on va parler de Pillars of Eternity 2. C'est un jeu de chez Obsidian, les mecs qui ont fait le Fallout New Vegas, mais aussi une équipe qui contient des anciens de chez ceux qui ont fait Baldur's Gate 2. et qui ne sont pas donc des clochards en termes de jeux de rôle à l'américaine. Leur Pillars of Eternity 2 a atteint les presque 4,5 millions en crowdfunding. Donc voilà, on peut s'attendre à un jeu de l'envergure du premier, voire plus.
Voire plus, beaucoup plus.
Voilà, on nous promet des décors qui bougent cette fois, entre autres. On nous promet
des animations,
plus d'immersion, encore plus
des animations,
des choses bien, et donc un jeu qui le premier, pour rappel, était très 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 concentré sur la narration, qui était fantastique, et donc là on en veut encore plus. On leur souhaite tout le bonheur du monde.
Guillaume, la news sexiste de la semaine.
Alors la news sexiste, c'était la manette en forme de soutien-gorge que tu peux mettre sur la poitrine de ta copine.
Celle de ton copain, parce qu'il y a aussi une brassière pour les hommes.
J'ai une petite question, est-ce qu'on peut la mettre sur la poitrine de quelqu'un qui n'est pas sa copine? Est-ce que ça marche quand même?
Et je pense que tu peux être libertin du jeu vidéo, oui.
D'accord, ok.
Et si tu es zoophile, est-ce que tu peux la mettre à ton chien?
Je n'ai pas testé.
Ça dépend de ton type de jeu.
Ça dépend de ton type de chien. De jeu.
On précisera quand même que c'est le modèle PS. Hein.
D'accord, ouais, effectivement, les joueurs Xbox sont plutôt habitués à jouer avec des hamburgers, notamment.
Donc pour les Sony sexuels.
Les Sony sexuels, effectivement, voilà. Comme on les appelle. Ferdi, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué cette semaine?
Moi, c'est Game Freaks qui a annoncé qu'ils faisaient une offre de recrutement pour un RPG très célèbre et très très bien sur Switch.
Alors, voilà. Mais c'est bizarre, mais quel RPG
qu'on fait Game Freaks, nous qui ne savons pas, bien
depuis maintenant. Alors avant ils faisaient des jeux, mais maintenant ils font plus que Pokémon, donc voilà. Et peut-être le rêve du Pokémon 3D monde ouvert, le rêve qu'on a depuis la Nintendo 64, en fin d'actualité.
Peut-être un vrai Pokémon 3D, pas comme Colosseum qui était très
sympa, mais qui n'était pas comme Pokémon Stadium surtout.
Est-ce que Nintendo serait pas en train d'avoir des idées cette fois-ci?
C'est vrai incroyable. Et de réaliser des rêves de joueurs, c'est
Je pense qu'on y reviendra. De toute façon, on reviendra sur Zelda tout à l'heure.
Mais oui.
Demain,
mais...
ils vont nous annoncer Monsieur Nuts 2, c'est ça?
Peut-être.
Bam.
Est-ce que Gripsy a une news, toi qui m'as dit que tu étais vraiment au courant de l'actualité en ce moment? Elle me fait non de la tête. Elle se met à rigoler. Elle me fait non, surtout pas.
Non, moi, je suis restée pour les hardcore gamers qui jouent sur le torse de leur compagnon, de leur compagne, et qui se disent « Attends, il me reste un point de vie. »
Alors, Sushi, est-ce que tu as news?
Sushi.
C'est comme ça qu'il faut m'appeler. Alors, au niveau des news, pas du tout, parce qu'en fait, j'ai été totalement pris par Zelda, parce que j'ai acheté la Switch, du coup.
C'est notre faute.
À cause de l'émission, tout à fait. Et de ma copine qui l'a acheté avant moi et qui m'a fait « Regarde, t'as vu, j'ai la Switch, et pas toi. »
Ah, tu t'es fait avoir.
Et du coup, non, je n'ai absolument pas regardé les news.
D'accord. Alors moi, j'en ai une petite. La série Senken Densetsu, arrivée sous le nom européen...
Secret of Mana, la série des Mana. Il y en a plein, Legend of Mana.
Voilà, il y en a trois. La trilogie arrive sur Switch en boîte pour, j'imagine, une quarantaine d'euros au Japon, là, en mai. On sait que Nintendo est quand même assez favorable aux localisations, notamment européennes. Donc on pense que ça a de grandes chances d'arriver. Ce serait vraiment un bon cadeau, je pense, pour les fans.
Oui, ce serait cool, surtout pour le troisième, en fait, qui n'est jamais arrivé en Europe. En fait, le Legend of Mana, si je ne m'abuse.
Ouais.
C'est Ken Densetsu 3, qui n'est jamais arrivé en Europe. Alors que nous, donc, on avait que Secret of Mana sur Super NES. Donc oui, ce serait cool. Après, ça m'étonnerait, mais ce serait cool.
Et ce que j'aime beaucoup, c'est que j'ai pas l'impression que les boîtiers Switch changent d'une région à l'autre, les dessins.
Non, ça change pas trop. Par contre, après, ce sera le problème de la langue, bien sûr.
Parce que moi, je veux le boîtier japonais, qui est juste magnifique.
Le boîtier japonais est magnifique, effectivement, mais ça change pas grand chose, au niveau notamment de Zelda. J'avais pas vu des différences énormes. Mais ça reste quand même des mini boîtiers, PSP.
Pas de sushi à se faire chez les Nippons.
Après, ils vont nous faire un Chrono Tiger, etc. Un petit Chrono Tiger en boîte.
Ouh, ça m'étonne.
En VF.
Ouh, ça m'étonne.
J'y crois pas trop.
Déjà sur DS, faut le trouver. Donc s'il le ressort sur Switch, ça ferait 5 versions de Chrono Trigger.
Une compile de genre Chrono Tiger, Secret of F-More, les jeux one-shot de la Super Nintendo.
Ça pourrait le faire.
Ça peut être possible.
Avec du jeu of Time.
Ouais, voilà.
Terranigma.
Ouais, calme-toi.
Je pense qu'on peut rêver.
Ce serait mieux que sortir des jeux virtuels.
Je pense qu'ils vont plus sortir la Super NES Mini que
Nintendo Money.
La Nintendo Money, effectivement.
La Nintendo Money.
Est-ce qu'il y a une autre news qui vous a marqué cette semaine?
Jacques Cheminade qui veut interdire les jeux vidéo violents.
D'accord.
Un candidat aux présidentielles françaises qui avait proposé d'ailleurs de coloniser Mars, qui a dit hier sur une antenne de télévision française qu'il fallait interdire les jeux vidéo violents parce que c'est à cause d'eux qu'on crée le terrorisme, ou alors il faut les taxer.
D'accord.
Voilà.
Une nouvelle qui ravira ses 78 électeurs.
Voilà, tout à fait. Oui.
Bah, moi qui voulais une base sur la Lune, mais si on ne peut pas jouer à la PlayStation, ça me...
Non, du coup, on pourra y jouer sur Mars. Enfin, je suppose que la loi, ça n'applique qu'à la Terre.
Oui, d'après son programme, je pense qu'on pourra aller sur Mars. Ouais, t'as raison.
Bon, ça va.
C'est une bonne idée, hein, si vous avez suivi le débat hier comme
nous.
Comme nous, en direct sur Twitter. C'était assez rigolo, effectivement. Pas d'autres news, on peut passer aux rubriques. Je crois que le coffre de Ferdi a 250 pages. Donc
il n'y en a qu'une seule, c'est une blague. Hein.
Et on va pouvoir écouter ton générique. Et
ton petit générique.
Alors, cette semaine, j'ai ressorti un jeu NES alors, qui s'appelle Kabuki Quantum Fighter. Donc, c'est un jeu NES qui est sorti en 90 au Japon, 92 chez nous, un jeu de plateforme action. Un jeu développé par Al Laboratory. Alors, Al Laboratory, c'est ceux qui ont fait Kirby et Smash Bros, par exemple.
C'est pas n'importe qui.
C'est pas n'importe qui.
Mario Party sur DS.
Oui.
Voilà, donc c'est des gens qui auraient fait, qui ont acté après sur les jeux vidéo. Donc, c'était avant Kirby. Pour vous situer. Alors, je vais vous dire l'histoire du jeu. Donc, c'est en 2056, il y a un virus inconnu qui menace le principal ordinateur interconnecté de la Terre. Scott Connor, un militaire de 25 ans, qui accepte de transférer son esprit dans le jeu. Et dans le jeu, il devient un kabuki. Donc, un kabuki, c'est un danseur traditionnel japonais, donc un monsieur avec des cheveux rouges, une robe, etc. Parce que l'ordinateur, en fait, comme son grand-père était danseur de kabuki, il décide de mettre cette forme-là au personnage. Voilà. Donc il faut imaginer Matrix avec de la drogue.
Matrix avec des cheveux.
Voilà, avec des cheveux. Alors c'est un jeu qui a donc un scénario bizarre, hein, original. Je voudrais bien voir le remake 3D. Et donc ça se passe dans des décors bio-organiques à la Ginger, à la Alien, donc avec du cerveau, etc. Graphiquement ça ressemble au Batman qu'il y a eu sur NES. C'est le même moteur utilisé. Donc c'est un moteur très sombre qui utilise les couleurs, donc du noir, les contrastes très forts, etc. C'est un jeu qui est court, qui est speedrunné en 10 minutes, qui peut être fini avec des réflexes normaux en 20, et qui est finissable en 5 jours avec des réflexes normaux. Qu'est-ce qui est ultra, ultra dur. Ça veut dire que c'est un hardcore, c'est le jeu à l'ancienne, ça veut dire que tu apprends par cœur, mais en même temps qu'apprendre par cœur, il faut quand même que tu aies des réflexes de port.
D'accord.
Donc c'est le mélange des deux. C'est un jeu donc, avec un univers déjanté, comme j'ai dit, complètement fou. Les ennemis, c'est des ninjas, des chiens qui sautent avec des épées, des chiens qui sautent avec des boules de feu.
Toujours dans un programme informatique.
Et le but, en fait, c'est. Le jeu avance, en fait, l'histoire, c'est qu'au fur et à mesure, tu rencontres donc, des firewalls, des choses comme ça, ou d'autres virus, et tu les bats, c'est les boss, etc. Et le boss de fin, c'est le virus principal, qui est Mother Brain de Metroid, grosso modo.
D'accord.
Mais qui crache, qui a une tête robot géante à la place.
C'est bizarre.
Oui, c'est un univers en fait, c'est un jeu qui a un univers mais assez fou, donc graphique, et qui a un héros, donc on joue un kabuki, un personnage, donc c'est en 2D, un jeu de plateforme, on saute, on s'agrippe, et on se bat avec ses cheveux. Ça veut dire qu'on. Donc la grosse touffe de cheveux rouges qu'on a, et ben c'est l'arme principale, ça veut dire qu'on donne des coups de cheveux sur les ennemis. Et après, on récupère des tirs à chaque niveau, donc des tirs alternatifs qui permettent d'utiliser une espèce de barre d'énergie qu'on a, qui permet de tirer à distance, on a le premier tir, comme dans les jeux de shoot. Voilà. Alors, pourquoi j'aime ce jeu ? Pourquoi ce jeu, je vous en parle, c'est un jeu qui a été extrêmement bien noté à sa sortie, dans tous les magazines, en Europe, au Japon, etc. Parce que c'est une petite perle, en fait. Donc, je vous ai dit, un univers ultra original qui n'a jamais été réexploité. Des graphismes, alors c'est une copie des graphismes de Batman, on retrouve les layouts de Batman, mais il a son charme, parce que grâce à cet univers complètement barré, les animations du personnage sont géniaux, donc il saute, tu fais, ah putain, ils mettent un sprite quand il saute, tu sais, genre il saute, il bouge pas, tu fais, c'est nul, et d'un coup, il y a des plateformes où on peut s'accrocher. Le personnage s'accroche, et là, il fait une espèce de roulade avant à la Blanca, avec autant de frames que sur une Super Nintendo, et là tu fais, what? Sur Nintendo, c'est ultra impressionnant en fait, donc faut imaginer que le bonhomme est rouge, donc comme je vous ai dit, la couleur du bonhomme, il n'y a que lui qui est rouge. C'est-à-dire que le décor évite cette couleur tout au long du niveau, tout au long du jeu. Donc ce qui permet en fait de faire une lisibilité extraordinaire pour un jeu de plateforme de l'époque. Comme Mario avait fait en gardant les codes couleurs que pour le héros.
D'accord.
Et une OST génialissime. Alors est-ce que Guillaume, est-ce que tu as un bout de l'OST? Voilà.
Oui, j'en laisse un petit peu.
Soir.
Donc cette OST, voilà, il y a 6 niveaux dans le jeu. C'est de la NES, c'est 6 niveaux, une OST démente, démentielle, une des meilleures pour moi OST hors grand classique, Mega Man, Castlevania, etc. C'est une OST de folie, le jeu, mais en fait chaque niveau a une musique totalement différente, une ambiance différente. Et voilà, et surtout c'est des boucles très longues. C'est chose rare, c'est-à-dire que les niveaux généralement quand le speedrun, que j'ai regardé le speedrun de 10 minutes, et ben on n'entend jamais le fond de la boucle à chaque fois.
D'accord.
Voilà. Donc voilà, Kabuki Quantum Fighter, c'est un jeu qui vaut rien du tout. Ça veut dire que si vous voulez là, si vous avez une NES à la maison, c'est un jeu qui est trouvable dans les boutiques, en occasion, sur internet pour des prix ridicules.
Il est sorti en Europe
Oui, il est sorti en Europe. Oui, il est sorti en Europe, au Japon, etc. Et alors, c'est ridicule à trouver la cartouche, même le jeu en boîte est ridiculement bas.
D'accord.
Profitez-en. C'est une perle de la NES. C'est vraiment une. C'est dire à décrire parce que, en fait, j'aimerais bien vous mettre des images. Parce que l'univers est tellement unique que le jeu en devient. Enfin, c'est un souvenir inoubliable pour tous ceux qui l'ont eu dans une NES. C'est un jeu en fait qui sert beaucoup de retrouver dans des lots de NES en fait.
D'accord.
Comme on avait tous Mega Man 2 dans la NES.
Il est à 10€ sur internet.
Voilà, il est à 10€ sur internet. Et profitez-en, ce jeu Kabuki Quantum Fighter, c'est une petite perle de la NES. Voilà, et si vous avez malheureusement pas de NES ou si vous avez que la cartouche, les émulateurs existent pour que vous puissiez y jouer, profitez-en.
Très voilà. Bien. Eh ben merci Ferdi. On va passer directement à Tom, hein, je crois qu'il y a un petit jeu à nous présenter.
Allons-y,
sur,
comme
PC,
à chaque fois, un obscur jeu.
Un obscur jeu. You unlock this door with the key of imagination. Beyond it is another dimension. A dimension of sound. A dimension of sight. A dimension of mind. You're moving into a land of both shadow and substance, of things and ideas. You've just crossed over into the Twilight Zone. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui ? On en a cité le titre tout à l'heure. On va parler de The Flame in the Flood sur fond de son OST, d'une de ses musiques en tout cas. De quoi ça parle, The Flame in the Flood ? C'est donc un jeu par des anciens de chez Irrational Games, donc qui ont fait des petits jeux comme BioShock par exemple. Et,
Vraiment des petits amateurs.
Peccadi, hein, finalement.
Ouais.
Et donc dans ce jeu, ça va se passer après une gigantesque inondation dans ce qui semble être la Louisiane. Et le but, ça va être de descendre les rapides d'un gigantesque torrent pour atteindre sa destination, sûrement la mer, l'océan. Pourquoi est-ce que ce jeu est vraiment, vraiment cool ? Donc c'est un survival, pas horror, c'est un survival tout court avec des vrais éléments de survie. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments qui sont, on va dire, surnaturels. Il va falloir vraiment survivre en ramassant des plantes, en trouvant des bandages et avec l'aide d'un chien. Petit détail d'ailleurs, petite anecdote. En général, j'aime pas trop les chiens dans les jeux vidéo. Choqué que j'ai été par l'inutilité de ce dernier dans Fable 2. Et là, premier jeu que je tombe où un chien est vraiment utile.
Le pire étant dans Fallout.
Hein. Et voilà, le pire étant Fallout, effectivement. Là, voilà, on est sur vraiment un jeu avec une ambiance particulière. Si on peut entendre un petit bout d'OST aussi.
On entend, ouais.
On entend.
Cool. Voilà, vous pouvez voir que c'est vraiment c'est ce genre de musique-là qui vont se déclencher vraiment pendant le jeu. On a des vraies chansons, hein, avec pas mal de crafting, un jeu assez punitif puisque c'est un roguelike en fait, et que donc quand on meurt, on reprend du début.
Ça, c'est un jeu 2D.
C'est un jeu 3D. Et c'est un jeu 3D qui a rendu.
Fait penser à un de tes jeux préférés, à Life is Strange.
Tout à fait, exactement, que j'adore pour sa myriade de choix vraiment importants comme.
Calme-toi.
Je dirais ça.
Calme-toi. Qu'on apporte une news Star Citizen à Tom,
vite,
s'il vous plaît.
Vite. Pourquoi est-ce qu'il faut jouer à ce jeu ? Donc pour ses graphismes qui sont assez cool, c'est de la 3D, mais c'est de la 3D un peu pastel, un petit peu en aplat, qui donne un peu un effet livre dépliable, si vous voyez de quoi je veux parler.
Ouais.
Vraiment, vraiment cool. Il coûte pas très cher, donc vous pouvez sauter dessus et du coup mourir dans les inondations.
Alors c'est sur PC, hein.
C'est sur PC, ouais.
C'est Steam, une dizaine, quinzaine d'euros à peu près.
Il vaut ses 10 euros.
J'avoue que visuellement c'est très joli.
Ouais.
Est-ce que c'est un jeu qui peut se retrouver à jour dans des bundles ?
Je l'ai pas eu dans un bundle, mais j'ai toutes les chances.
Ouais, c'est possible, ouais.
Il vient de sortir. Donc.
Est-ce qu'on le verra sur console peut-être ? Est-ce qu'il est prévu sur console ?
Je ne saurais pas vous dire. Je dirais que oui, parce que moi je sais que j'y joue à la manette.
Ouais.
Et que du coup il est tout à fait jouable à la manette. Donc,
d'accord.
Pour moi il y a des chances. Après là il est pas en alpha, il a la politesse de pas être en alpha, c'est un jeu final, mais d'accord. Il va y avoir normalement encore
comment
des petits.
Comment s'appelle le studio donc ?
Alors le studio c'est.
Je me demande ce que sont devenus ceux, j'ai oublié le nom du studio.
Je crois que c'est Giant Squid.
D'accord.
Mais alors, il est sur PS4.
Voilà.
Il est à 15€ sur PS4.
Ok. Eh ben, je note. Peut-être que j'irai voir. Alors, ça me tente bien.
J'irai faire un tour aussi.
Ok. Eh ben, impeccable. Du coup, on va terminer. T'as terminé.
C'est bon pour moi.
Impeccable. Alors, moi, j'ai pas prévu d'OST, donc Game.
L'éditeur, c'est The Molasses Flow.
Ah, Molasses Flow. D'accord. Ok. Guillaume, est-ce que tu peux me trouver une petite musique de Zelda Breath of the Wild, parce que j'ai envie d'y revenir, parce que entre la dernière mission où je vous l'ai amené, on va le faire avec Sushi.
Est-ce qu'on n'aurait pas trouvé ton Star Citizen?
On a trouvé mon Star Citizen.
Sauf qu'il est sorti.
Quand je suis arrivé il y a deux semaines, j'avais dit que Breath of the Wild n'était pas le meilleur Zelda du monde, chose que je soutiens encore pour plusieurs raisons.
La nostalgie.
Alors, la nostalgie doit jouer beaucoup. Effectivement, Breath of the Wild, j'y ai joué 45 heures. Je viens d'abattre Ganon, hein, effectivement.
Ou plutôt Ganon.
Ou plutôt Ganon.
Oui. Oh, t'as spoilé qu'il faut les battre Ganon.
Oh là là. Effectivement, je suis désolé pour tous ceux qui ont
vu le gâchage.
Je suis désolé. Donc, effectivement, je viens de l'achever. J'ai eu l'impression de ne parcourir que rien du tout du jeu, en fait, tout simplement. Et le jeu m'a donné raison, puisque une fois que tu as fini, tu as un pourcentage qui s'affiche en bas de ta carte. Le jeu m'a fièrement annoncé que j'avais fait 9,67% du jeu.
Oh mon dieu!
Non!
Exactement.
9%!
Ah non, c'est pas une blague, c'est pas une blague. Le jeu m'a fièrement annoncé que j'avais absolument rien fait sur ce jeu, c'est incroyable. Donc, ce jeu, on a déjà vu, il a de nombreuses qualités, ce jeu est. Vraiment un jeu à monde ouvert, mais vraiment, c'est pas comme tous les jeux de maintenant en fait. C'est vraiment la liberté et c'est vraiment quelque chose qu'on n'avait pas ressenti depuis très très longtemps. Alors je sais pas ce que tu en penses, Sushi.
Ouais, je suis en train d'hocher la tête en te regardant. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est un monde totalement ouvert où on peut faire n'importe quoi. Et à titre d'exemple, j'ai ma copine qui a avancé et qui a suivi un peu la trame principale. Moi, j'ai totalement papillonné. Mais alors totalement. C'est-à-dire que je suis arrivé chez les auras. Puis après j'ai fait demi-tour, je suis allé voir Ganon et je me suis fait littéralement exploser la gueule. Et voilà, en fait tu peux vraiment voyager partout, tu n'as aucune limite.
Alors ouais, en même temps sa principale qualité est son défaut. On est souvent perdu dans Zelda.
C'est vrai.
Et en fait tout ce que tu vois dans Zelda, et c'est ce que Aonuma avait promis à son développement, c'est que tout ce que tu vois tu peux y aller. Tout ce que tu vois tu peux y faire un tour, tout ce que tu vois tu pourra sûrement y trouver quelque chose. Généralement, tu ne finis pas une quête principale comme ça. Tu vas vers ton objectif, tu remarques quelque chose qui se passe, t'es complètement perdu, tu changes complètement d'avis.
C'est la recette de Fallout New Vegas, en fait.
Oui et non, effectivement. Et il se démarque pour ça des jeux actuels qui ne te fait pas vraiment suivre un chemin.
Oui,
tout ce que tu peux faire, c'est marquer un point quelque part dans la carte. Le jeu te dit le point est là-bas, mais t'as pas de ligne jaune ou de GPS magique qui va t'indiquer exactement où aller.
Est-ce qu'il y a un chien dans le jeu ?
Il y a des chiens dans le jeu.
Je l'achèterai pas.
Mais on peut pas vraiment interagir avec eux, en fait.
Tant que c'est pas un allié, c'est bon.
Tu peux un peu interagir, il peut chercher des fois des petits trésors pour toi. Tu peux aussi, alors ça c'est complètement bizarre, mais tu peux aussi acheter une maison dans Zelda. Oui je promets que c'est vrai.
C'est Farmville en fait.
Ce sera pas le premier Zelda avec une maison finalement. Est-ce qu'on peut avoir une vache dans la maison?
Ça je ne sais pas. En tout cas, il y a toujours des poules qui te volent dessus une fois que tu leur tapes dessus avec l'épée. Effectivement, ça c'est respecté. Donc c'est vraiment, ça prend vraiment le meilleur de ce qui a été fait pendant que Zelda était sorti et qu'il était dans l'immobilisme complet pendant des années.
Quelque chose comme 20 ans.
Quelque chose comme presque 20 ans.
C'est quand Wind Waker.
Ouais, à peu près, ouais.
Depuis Wind Waker.
Moi je dirais même carrément depuis Ocarina of Time en fait.
Oh, il y a eu Majora's Mask quand même après.
Ah, ok. Qui est un peu un épisode hors série.
Ouais,
allez, des trucs. Allez, j'accepte le Wind Waker.
En gros, je veux bien comprendre que ce Zelda soit vraiment la sensation de liberté que les joueurs avaient ressenti il y a 20 ans quand
avec
ils avaient joué le tout premier Zelda.
Tiens une épée, démerde-toi.
Et c'est exactement ce qu'on te propose dans ce Zelda avec tout ce qui a marché dans les épisodes. Ça bouffe à tous les râteliers. Ça bouffe à Far Cry, ça bouffe à tout ce qui a fait que les mondes ouverts ont été simples. Ça bouffe même à Shadow of Colossus, à des tonnes de jeux, mais ça mélange ça dans un espèce de c'est un gros gâteau vraiment hyper généreux.
Ouais, c'est vrai, ouais.
T'en manges une part, t'as bien mangé, mais mamie te dit tiens reprends donc une part, reprends donc tout le gâteau, reprends tout ce que tu veux, t'en as pour des centaines d'heures. Et effectivement, même si ça fait un vide une fois que t'as terminé l'histoire, parce que voilà, moi je me suis rarement autant investi dans un jeu depuis super longtemps. Ça reste une aventure incroyable et vraiment je le conseille à tout le monde, malgré les petits problèmes techniques, le doublage qui est pas top, l'histoire qui est pas folle, mais ça on s'en fout. Vraiment le héros du jeu, c'est vraiment le monde dans lequel on est lâché. Et là ça part vraiment du cœur, ça part vraiment du côté fanboy.
Est-ce que tu as un avis peut-être un peu plus modéré, parce que moi j'ai du mal à rendre le truc un peu.
Ouais. Moi en fait je suis toujours du même avis que toi par rapport à Zelda. Ils ont vraiment bien réussi cet opus là. Sensation de liberté, on y est totalement dedans. Ça s'inspire énormément de jeux comme Skyrim, Witcher 3 avec, j'ai adoré en fait le système de suivi automatique des chevaux qu'ils ont repris.
J'ai même pas fait gaffe, j'avais quasiment pas pris de chevaux.
Si tu laisses piloter ton cheval sur une route, en fait, il prend totalement la route autonome, en fait.
D'accord.
Il va se balader et puis tu lâches la manette, tu fais ce que tu veux en attendant.
D'accord.
Et tu observes.
Ouais, tu observes et en fait, ça te permet vraiment de voir le paysage pendant que tu te balades.
Ouais. Je voulais revenir aussi sur des tout petits détails, mais vraiment très bêtes, qui rendent le jeu très vraiment vivant. Un truc tout con, par exemple, si tu nages sans ton armure, sans tes machins, Link nage plus vite. C'est un détail à la con, mais ça permet de rajouter au réalisme. Hein. Les fameux éclairs que vous avez vus quand vous avez joué la dernière fois, il suffisait d'enlever tous ces trucs en métal et tu pouvais avancer
en fait,
tranquillement sans être touché par la foudre.
En fait, c'est tous ces détails-là qui font que l'univers est génial.
La cohérence dans l'open world.
Même chose, tu n'es pas le seul touché. Les ennemis qui ont des armes en fer se font littéralement foudroyer devant toi quand tu les attaques. À un moment, j'étais mal en point, il y a un éclair qui arrivait qui a buté les trois mecs d'un coup. C'était incroyable. Tu peux résoudre des puzzles en utilisant tes armes métalliques. Il y a une vidéo qui tourne d'ailleurs sur YouTube où il y avait deux switches d'électricité à activer. Il a pris le premier. Il a mis toutes ses armes les unes à côté des autres, il a activé le deuxième comme ça en faisant une espèce de chaîne d'électricité. C'est un monde qui est vivant, c'est un monde qui est cohérent.
J'ai joué 5 minutes quand tu étais venu à la maison, là j'ai joué 10 minutes. Je vais jouer un ennemi, un gros machin assez énorme avec son copain gobelin. Je m'approche, il prend son copain gobelin, il me le jette à la gueule. Et j'ai fait oh jeu.
Oui, j'ai vu ça aussi.
Ça rappelle un peu Dragon's Dogma, ça.
C'est ça,
surprise.
Non, le jeu est fou.
Le jeu est fou. Il y a tellement de détails qui fourmillent de partout. Je conseille vraiment d'y jouer parce qu'il faut vraiment se faire son avis personnel. C'est très compliqué de résumer autant de folie quoi, dans un seul et même jeu. Voilà, surtout pour Tom, je crois que tu as un peu apprécié le jeu, mais il faut que
moi, j'ai pas beaucoup joué. Hein. J'ai joué le temps de la présentation de la dernière émission. Le jeu m'a fait l'air bien. Après, encore une fois, je pense que c'est pas un jeu qui se jauge avec 10 minutes de jeu dedans.
Je conseille facilement de passer le plateau du prélude qui est un petit peu redondant peut-être au départ. Mais une fois que t'es sorti de là et que t'as la voile justement pour t'envoler partout, et c'est là que tu te dis putain, là je suis libre.
Alors, moi, ce que en fait, je trouve que ce jeu a en ce moment une aura. Qui dit un peu à tout le monde de l'acheter. Est-ce que tu pourrais nous mettre une note sous forme de prix, genre 60€ sur 20 ou carrément full price sur 20, 70€ sur 20, 350€ sur 20 pour la Switch? Est-ce que tu penses que c'est un jeu qui par exemple vaut les 350€ qu'il faut pour acheter la Switch ou pas, ou est-ce que tu te demandes, dirais plutôt, si vous avez déjà la Wii U, achetez pas la Switch exprès pour ça.
Personnellement, je pense qu'il faut y jouer dans les meilleures conditions. Après ça, c'est mon côté un petit peu fanboy. Je pense que la Switch sera de toute façon un bon investissement parce qu'il y aura des futurs jeux très bien. Donc effectivement, full price sur 20, clairement, vous perdrez pas un seul centime de ces 60 ou 70€. Ils les méritent amplement et 100 fois.
Donc en fait, Nintendo ont réussi, ils ont sorti leur Switch, on criait tout ça, le line-up est ridicule, mais non, ils ont une killer
app. Nintendo a sorti le meilleur
Zelda. C'est la killer app.
Ils ont compris la leçon des vieilles consoles d'avant.
Donc, c'est pas une démo technique de 6 heures sur une nouvelle console.
C'est
quoi.
Ça. La seule chose qui manque à Zelda, finalement, c'est un esprit un petit peu divergent, enfin quelque chose qui lui donnerait l'aura de Majora's Mask. Moi, c'est la seule chose qui m'a manqué. Voilà. C'est tout ce que je peux dire, mais l'univers est parfait.
Trop mignon, en fait.
Pas forcément.
Il est quand même un petit peu sombre. Hein, le jeu,
un univers, un petit souche comme Majora's Mask ou Wind Waker avait fait. C'est toujours Zelda, mais ouais, un petit truc en plus.
Voilà, c'est ça.
D'accord.
Voilà. Voilà, je pense que ça donnera, je pense, envie d'acheter le jeu ou au moins de réessayer un petit peu plus longtemps à ceux qui nous écoutent. Ouais. Du coup, on va faire une petite pause musicale.
Une musique du club Afterlife de Mass Effect 2. Et on se retrouve juste après dans C'est la faute à la manette sur Radio Campus Tour. A tout de suite.
A tout de suite. We'll be right back.
On vient de s'écouter du coup la musique du Club Afterlife de Mass Effect 2 et on est de retour dans C'est la faute à la manette pour parler de
Mass Effect, la trilogie. Effectivement, ce sera donc le thème du débat. On a même une OST de Mass Effect 3 pour aller en fond et c'est Tom qui va nous présenter un petit peu l'histoire, l'univers, même si ce n'est pas son jeu préféré.
C'est effectivement pas ma trilogie préférée.
Mais effectivement, tu vas aussi nous présenter un petit peu qu'est-ce que c'est Mass Effect.
Alors en premier, avant de vous dire pourquoi Mass Effect c'est très aigre doux, je vais vous raconter l'histoire du jeu. C'est donc une trilogie de jeux qui est faite par BioWare, les mecs qui ont fait Dragon Age par exemple, et donc aussi Baldur's Gate, hein, comme avec les mecs de chez Obsidian. Ça se passe donc dans le futur. C'est sorti en 2006, à vue de nez.
2007 pour Mass Effect. Novembre 2007 pour Mass Effect 1, 2010 pour Mass Effect 2 et 2012 pour Mass Effect 3.
Donc comme je vous disais, un cadre futuriste, ça se passe en 2183 dans donc, la Voie Lactée, hein, dans un bout de notre galaxie, et ça relate donc la quête d'un commandant qu'on crée, en fait, le commandant d'un vaisseau, le commandant Shepard, qui peut être un garçon ou une fille. Et donc le début, ça va être, lors d'une mission, on va tomber sur une augure funeste venant de l'espace d'une race un petit peu étrange, les moissonneurs, qui nous annonce la fin carrément de la vie dans la galaxie. On va devoir suivre cette quête principale-là, en rapport avec une autre, la trahison d'un spectre, donc une sorte d'agent 007 de l'espace, qui s'appelle dans le premier Saren. J'ai bonne mémoire.
Effectivement, c'est ça.
On va devoir à la fois poursuivre Saren, qui aurait lien avec cette fameuse augure, et démêler le vrai du faux. Le premier est donc un grand jeu de pistes, le deuxième est un petit peu plus dirigiste, et le troisième est la conclusion de la trilogie, dans ce qui se fait, ce qui est plutôt un bon jeu de conclusion, on va dire.
Voilà. Alors, Mass Effect, comment ça se présente ? Ça se présente comme un RPG finalement assez classique de chez BioWare.
Donc si vous avez joué à Dragon Age, on est largement en terrain connu.
Voilà.
Si vous connaissez pas ce genre de choses-là, en fait, c'est un jeu qui a inventé la roue des dialogues.
Voilà.
C'est-à-dire que par exemple, les Fallout, etc., on avait 5, 6, 8 choix de dialogue, 10 choix de dialogue, et il y en avait où, par exemple, c'était, tiens, j'ai par exemple 8 en charisme, tiens, je peux répondre ça, je peux répondre cette réponse charismatique, ou alors je suis très intelligent, je peux répondre ça. Mass Effect, on a accès à presque tous les choix de dialogue tout le temps via une roue qui a 6 positions. Sur le côté droit, il y a gentil, neutre, méchant. Et donc, plus on est gentil, plus on a accès à des choix spéciaux gentils. Mmh. Et plus on est méchant, plus on a accès à des choix spéciaux méchants. Et ensuite, de l'autre côté, c'est de la recherche d'infos. Donc, par exemple, dites-moi en plus. Mais au fait, vous avez dit ça, est-ce que c'est pas du mensonge,
etc. Au revoir et bonne journée.
Au revoir et bonne journée. À l'époque, c'était excellent, c'était très nouveau. Et donc, ça a donné un gros dynamisme dans les dialogues.
Alors, on va résumer un peu les RPG BioWare, c'est des mondes à peu près semi-ouverts, hein, on peut se balader assez librement, discuter à peu près avec tout le monde, hein, la plupart du temps, c'est ce qui fait la force des choses.
Alors, c'est pas un vrai monde ouvert, hein. Par contre, faut pas oublier que ça reste des couloirs larges.
C'est pour ça que je parle de semi-monde ouvert.
Voilà, c'est vraiment semi-semi. Le premier avait des passages en monde ouvert, que les autres ont abandonné.
Bah justement, on va y revenir. Le fond vraiment de Mass Effect, c'est il y a un petit peu tout en fait. Il y a les dialogues qui font une partie de son gameplay et surtout les combats qui, dans le premier, étaient assez rigides. Hein.
Même dans les autres, moi je trouve.
Ouais, surtout dans le premier en fait. C'était vraiment un Gears of War qui se serait pris un balai dans le cul, hein,
ouais, tout à fait.
Dire, hein. Totalement.
Côté tactical quand même.
C'est un petit peu tactical, effectivement. Tu pouvais donner des ordres, je crois, à tes alliés.
En fait, il y avait surtout un système qui est dans les trois Mass Effect, hein, mais qu'on utilise surtout dans le premier, de pause active. Qui est complètement repris en fait de Dragon Age ou d'autres jeux, hein, du type. Où en fait, la pause active, c'est-à-dire que ça pose le jeu, mais le jeu n'est pas en pause. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'on peut donner des ordres à nos alliés pendant cette pause-là. Ouais. Donc par exemple, je sais pas, on a quelqu'un en vue qui a un énorme bouclier, et ben on peut demander à notre allié d'enlever son bouclier juste avant de lui tirer dessus, ou alors de dire à un allié, tiens, par exemple, cet ennemi me tire dessus et va me tuer, est-ce que tu peux t'en occuper, est-ce que tu peux contourner, est-ce que tu peux faire ci, est-ce que tu peux faire ça.
Au niveau des pouvoirs, du coup, on a les armes, hein, classiques, comme dans tout Space.
Et au début de la création du perso, on a un système de classe, comme
tout
nos armes.
Oui, aussi, c'est vrai.
Qui a été simplifié au fur et à mesure, mais qui a le mérite d'être là.
Alors, parle-nous du système de classe.
Bah, t'as deux gros aspects. T'as le pur militaire qui va se baser que sur son armement, et
biotique.
Ouais, qui va se baser sur un système de pouvoir, en fait.
Ouais.
Voilà, donc la télékinésie, etc.
La magie de l'espace.
Ouais, magie de l'espace.
C'est ça. Et finalement, tu utilises. Enfin, la plupart du temps, moi, j'avais pris un perso assez équilibré, donc j'alternais en fait, ouais, entre voilà. bon pouvoir biotique et quelques petites balles dans la tête aussi qui font plaisir de temps en temps dans la tête des aliens.
Petite chose, faut pas oublier que dans ce jeu-là, on n'est pas limité hein, par son personnage. Non. Si on a choisi par exemple de faire un personnage qui joue très à distance, c'est pas grave, ça va pas nous empêcher de jouer d'une autre façon.
Il y a pas de malus.
Et de toute façon,
il y a pas de malus.
Il y a nos alliés puisqu'on est en escouade de 3, nos alliés sont là pour nous aider. Mm.
Une des forces, moi, je trouvais de Mass Effect 1, parce que là, on est vraiment dans le premier, c'était vraiment l'exploration de ces planètes hein, qui a disparu par la suite. En gros, on se posait sur une planète, on savait pas ce qu'il y avait, on voyait, par exemple, un coucher d'une autre, un coucher de soleil d'une autre planète, enfin, vraiment des paysages magnifiques. Ça a été abandonné très vite, hein, dès le deuxième.
Tout à fait.
On se contente uniquement de faire du scannage de planètes pour trouver des minerais, des choses pas très, très intéressantes en soi, hein. C'est vrai que pour moi ça a été une... Je sais pas pourquoi ils l'ont pas gardé. Est-ce que vous avez une idée ou est-ce que c'était
alors,
pour plus
est-ce qu'on peut faire d'abord un petit tour de table juste histoire de savoir qu'est que c'est votre Mass Effect préféré.
Ferdi, on va commencer par toi.
Alors moi, mon Mass Effect favori c'est le 2.
Le 2. Voilà.
Et pour en fait c'est pour les personnages, l'équipage, parce que c'est pour moi le meilleur.
D'accord. Mm-hmm.
Et par exemple le personnage de Jack, Projet Zero, qui était ma compagne dans le jeu et que j'adore. Non, c'est vraiment les relations entre les personnages et vraiment le... Moi, c'était ça, vraiment, c'était l'équipage qui donnait envie, les histoires de chaque équipage qui était dans des DLC. Bon,
d'accord.
Alors, Poétique, qui était un peu débile.
C'est un jeu qui. Est, voilà. chaque jeu a au moins 3 DLC,
ouais,
dont un bon.
Voilà. Et, et avec des aventures, vraiment, le 2. Et puis aussi, le 2, par rapport au 3, qui est très spectaculaire, le 2, il a un côté un peu intimiste encore.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est le milieu d'une saga, c'est l'Empire contre-attaque. On renoue des liens, on découvre des choses. Niveau scénario, c'est peut-être celui qui me plaît le plus. Voilà.
Toi-même, Tom.
Alors, moi, c'est le premier. Pour le côté découverte en fait, parce que faut pas oublier que c'était une nouvelle série à l'époque, et donc quand c'est arrivé ça a bluffé tout le monde, non seulement côté technologie parce que c'était très beau, mais pour ce que tu disais tout à l'heure Julien, pour le côté un peu gloobie-boulga, c'est-à-dire tiens on a mis un petit peu d'exploration et puis il y a aussi les dialogues et puis il y a aussi le combat et puis si tu t'ennuies tu peux aller faire de la quête annexe qui sert pas à grand chose, voilà, il y avait vraiment un peu de tout dans le premier et je trouve que le 2 et le 3 sont justement partis sur d'autres directions mais en abandonnant un peu le fluff. On va dire les à côté.
On y reviendra après, hein. Je pense que c'est lié aussi au changement d'éditeur. Enfin bref, on va en parler juste après. Sushi, est-ce que tu as un Mass Effect préféré ?
Le 3. Parce que
d'accord.
Vraiment.
C'est varié, au moins. Hein.
Oui, voilà, oui, tout à fait. Bah, le 3 d'une bonne saga.
Ouais,
preuve d'une bonne saga.
Oui,
tout à fait. Le 3, parce que graphiquement, était très, très, très joli. J'ai vachement aimé le style, même au niveau des fonctionnements, au niveau des dialogues et tout. Ils avaient amélioré un peu le bordel et c'était. Comment vous expliquez ça ? C'était. Plus fluide, oui, tout à fait, ouais. Plus intéressant et des personnages un peu différents des deux derniers opus. Non, j'ai vachement aimé le 3, ouais.
D'accord, Gripsy.
Là, ça va être un avis de cinéphile, forcément.
Je t'en prie.
Vous avez vu Prometheus ?
Mmh. Ouais.
Oui.
Ouais, Mass Effect like. Et au niveau du car design, vous avez vu aussi le Valyrian qui va arriver cet été ?
Forcément.
Donc au niveau de l'impact que ça a eu, je trouve que c'est important. Le cinéma de SF a été marqué par Mass Effect. Encore plus que par Halo.
Oui, c'est vrai que ça a inspiré pas mal.
Totalement, dans les costumes, dans le retraitement d'un space opéra un peu sérieux.
Oui, voilà. C'est vrai.
C'était pour adultes, un peu plus adultes.
Guillaume.
Alors moi, j'ai très peu joué au Mass Effect. Enfin, j'avais pas les consoles à l'époque, j'avais que la Wii. Donc,
c'est un épisode mobile et puis c'est bon.
Non, j'ai joué quelques heures au 3. Donc ça m'a permis de voir un peu. Mais le problème, c'est que ça commence déjà à vieillir. Mass Effect parce que justement le gameplay rigide comme tu disais le Gears of War avec le balai dans le cul et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est de plus en plus dur de jouer à des jeux comme ça mais sinon non j'avais plutôt apprécié l'univers était plutôt sympa l'histoire me plaisait mais c'est vrai que moi en plus je suis vraiment arrivé au moment où il y a eu tout le débat sur les fins de Mass Effect 3 qui ont foutu un peu le... Voilà.
On y reviendra effectivement.
Voilà,
ouais.
Mais ça avait fait pas mal de controverses, du coup ça m'avait pas forcément donné envie d'y jouer parce que tout le monde disait « Ah, les fins de Mass Effect c'est un peu nul et tout ». Voilà, je suis pas arrivé au bon moment sur cette saga.
Sur cette saga, ok. On rappelle que le jeu hein, est quand même sorti sur Xbox, PS3.
PC. Alors, le premier est seulement sur Xbox.
Non, il est ressorti sur PS3 dans la trilogie.
Ah oui, dans la trilogie.
Dans la trilogie.
C'est vrai, d'accord, ok. Je croyais qu'il y avait que le 2 et le 3.
Non.
Okay, ouais,
okay.
Il y a
les 3 sur PC également.
Elle est très belle, la boîte d'ailleurs de la trilogie.
J'ai retrouvé la trilogie il y a quelques jours à Micromania. 10€.
Sur PC, il y a le...
Sur Xbox 360.
Et sur PC, il y a le 1 et le 2 qui sont disponibles sur Steam, le troisième qui refuse d'être sur...
Ouais, il est que sur Origin. Ouais. Et à Origin, à un moment, offert le 2. Donc moi, j'ai eu le 2 gratuitement.
Vrai, ouais.
Voilà.
Du coup, ouais, donc on parlait un petit peu de ça. Effectivement, il y a eu un changement d'éditeur entre Mass Effect 1 et 2. C'était BioWare pour le premier.
Éditeur-développeur.
Et ensuite, est arrivé Electronic Arts, ce qui, à mon avis, est... principalement responsable du côté un petit peu plus action
finalement
de la série. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que ça a eu quand même un impact global? Oui.
Alors, moi j'ai trouvé ça hyper dommage en fait qu'on avait le premier avec des vraies grosses racines SF et moi en fait du coup faire dit pour changer on n'est pas d'accord puisque celui que j'aime le moins ça va être Mass Effect 2 qui justement rendait le jeu un petit peu enfin ça reste un bon jeu mais qui déjà avait beaucoup moins de durée de vie même si ça soutenait une action qui était quasi constante et des bons enjeux avec notamment un très bon début de jeu qui était vraiment vraiment cool mais le reste j'avais trouvé que c'était un petit peu teuteiser la série.
Mais je pensais pas être d'accord avec toi un jour.
Ce qui est drôle c'est que moi par rapport à vous c'est le premier c'est celui que j'aime le moins en fait. Ouais. J'adore le 2, j'aime bien le 3 et j'aime pas du tout le premier. Oui.
Pourquoi du coup?
Le premier parce que c'est pareil, c'est le gameplay et l'écriture que j'ai trouvé de l'histoire en elle-même un peu en dessous. C'est-à-dire que j'étais moins étonné. Je me suis moins attaché au perso.
Même en découvrant la série, parce que t'as fait
les. J'ai fait dans l'ordre. Et au début, je me suis même un peu ennuyé. Pas ennuyé, mais genre, il y avait des personnages qui mouraient ou des choix et j'étais.
Oui, ah oui, alors on peut parler effectivement. C'est un jeu de choix en fait, Mass Effect. On en a pas parlé alors que c'est évident. C'est une trilogie où on garde le même personnage à travers les trois jeux et on peut donc importer sa sauvegarde. C'était nouveau à l'époque.
Et si vous n'avez pas, par exemple, oublié votre sauvegarde, vous avez changé de support, il y a des mini-histoires interactives au début.
Voilà, qui permettent de refaire les choix.
Et on refait les choix, donc on a toute l'histoire et on refait comme ça, on rechoisit et c'est, voilà, c'est très très
The
malin.
Witcher le fait aussi.
Et même un petit peu mieux.
À mon avis, tous les sagas, je crois que c'est les premiers à proposer ça.
Quasiment les premiers. Premier.
Voilà,
pas d'apport de sauvegarde forcément, mais de vraiment faire un
rapport avec l'histoire.
Une nouvelle histoire, on pouvait re-choisir le passé de son personnage. Voilà.
Exactement, donc ça c'était hyper bien fait et surtout, donc il y a des choix qui ont des conséquences deux jeux plus tard, du premier qui impactent le 3, et ça par
contre, des personnages qui peuvent vraiment mourir.
On peut pas enlever à Mass Effect. C'est... Par exemple, dans une de mes parties, un des personnages, je n'ai juste pas recruté parce que je l'aime pas. Et donc du coup, voilà, il ne fait pas partie de mon commando, il ne fait pas partie de mon équipe, il n'est pas mort, mais il est juste pas là. Et ça c'est des choses qui étaient vraiment vraiment cool.
Et ce qui est génial, c'est effectivement que ça peut aller sur des petites choses comme ça jusqu'à l'annihilation totale d'une race extraterrestre.
Voilà,
on peut en parler des races extraterrestres. Il y en a énormément. Elles sont pour la plupart du temps hyper réussies. Honnêtement, il y en a que j'adore.
Il y en a des biens.
J'aime beaucoup les Krogan parce que j'aime bien leur côté.
Les Krogan, c'est des espèces de grenouilles trolls de l'espace.
Voilà. C'est les orques.
C'est l'équivalent des nains, des orques. J'aime beaucoup aussi ces espèces d'extraterrestres qui peuvent pas exprimer d'émotions. Et qui disent leur émotion avant de balancer chaque fois.
Il y a le docteur,
le salarien,
il y a le chirurgien dans le 2, je sais plus comment il s'appelle.
Ouais, c'est ça, ouais. Qui est génial, je m'en souviens. Ouais.
Moi j'aime aussi, c'est la race extraterrestre qui n'est pas jouable mais qu'on rencontre, c'est les êtres à quatre pattes super élancés. Qui ressemble à une espèce de blob sur quatre pattes, qui sont une race ultra noble,
ultra
pacifique, qu'on croise souvent à la citadelle, dans la ville principale. Qu'on croise dans la citadelle, qui ont une place dans l'espèce de Sénat, etc., qui ont une grosse place dans l'univers. Ils ont des noms, on s'excuse.
On a du mal avec les noms, ça fait un moment là.
C'est ça, excusez-nous.
D'autant plus que les noms en français sont pas les mêmes qu'en anglais.
Les Anaris.
Voilà, c'est ça.
Les Anaris, voilà.
Que dire d'autre sur ce jeu? Bonne musique, bonne OST en général, sur les trois Mass Effect.
On l'entend là d'ailleurs.
Voilà, c'est ce qu'on entend derrière. Ça soutient bien l'action. Il y a 2-3 petits moments de bravoure, particulièrement dans le 3. Je sais pas si tout le monde est d'accord. Je trouve que l'OST du 3 est un peu supérieur.
Elle est quand même assez costaud.
Quelque chose comme tu disais tout à l'heure, on peut créer un personnage masculin et féminin. Quelque chose qui est quand même. Mais qui était normal il y a très longtemps dans les RPG, mais qui a été perdu un petit peu dans les RPG à une certaine époque où il y avait un personnage défini qui a été remis quand même un peu au goût du jour dans un truc un peu avec de la 3D, etc. Et surtout avec qu'on pouvait avoir des relations avec tous les personnages. Alors ça c'est le truc qui a fait jouer
sur internet. Ça c'est la première polémique, voilà. Effectivement,
c'est on pouvait avoir des relations donc hétérosexuelles avec les personnages et avec des extraterrestres, ou des relations homosexuelles si on avait fait un homme un homme, une femme, etc. Et là le jeu, il y en a qui ont
il y avait du interracial, je crois aussi.
Oui,
des relations homosexuelles avec des aliens, imaginez
si on aime les tentacules et tout ça. Et le jeu, il y a une grosse polémique dessus parce que forcément t'as le droit de faire l'amour avec un micro-ondes, avec un être avec des poulpes, ou un homme avec des écailles, mais si tu fais avec un autre homme,
c'est un peu plus compliqué.
C'est dur.
C'est vrai que ça avait choqué pour l'époque, alors que finalement, ça restait dans l'air du temps.
C'est une polémique de gros cons.
C'est une polémique de gros cons.
Et c'est pourtant pas le seul jeu qui le permet.
À l'époque, c'était quand même nouveau.
On pouvait emprunter les services de prostituées, hommes et femmes, ghouls, dans les Fallout.
Dans les
Dragon Age, tu pouvais aussi vivre une aventure avec un homme gainé de cuir.
Je suis d'accord, mais c'est le premier qui le faisait de façon aussi
scénarisée. Aussi scénarisée, en fait. Parce que là, on parle vraiment d'une histoire d'amour avec un personnage.
C'est-à-dire que ça rend
qui est d'un jeu à un autre.
C'est vraiment une histoire que tu suis pendant quelques heures.
C'est surtout un gros triple A. C'est surtout des triple A, mais pure triple A, contrairement au Fallout qui était quand même un peu des gros jeux.
Underground.
Là, c'est là qui était quand même un côté un peu underground, les premiers Fallout 2, etc. Que là, c'est le gros jeu à EA, oublié. Donc, ouais. Et c'est très bien.
Et c'était surtout, c'est un des rares jeux où il y a des histoires d'amour qui veulent un peu dire quelque chose, où on retrouve son chéri dans l'épisode 2.
Et avec des interactions avec les autres, ça veut dire que tu peux tomber amoureux de quelqu'un, et là un autre perso te fait la gueule, etc. Enfin, t'as l'impression que le vaisseau vit, ton équipage vit. Et ça, c'est trop bien, quoi.
Il y a de la cohérence dans cet univers.
C'est ça
qui est magnifique. Avant de parler de la fameuse anecdote de la fin qui a beaucoup marqué les joueurs, je vais juste passer vite fait sur tout ce qui est à côté de Mass Effect, l'univers étendu. Les spin-offs qui sont nuls à chier, Mass Effect Galaxy, Infiltrator, de jeux mobiles à oublier totalement, pour dire qu'ils existent.
Les accompagnants.
Les romans, moi je vais revenir sur les romans Mass Effect qui sont très bien, très bien, qui se cale directement dans la chronologie Mass Effect allant du 1 au 3, ça se cale entre 2 ou juste avant
À
la Star Wars, effectivement. Donc il y en a 4 ou 5, je sais plus exactement, et ça se cale vraiment dedans, donc c'est super intéressant. Si vous voulez avoir un petit peu plus de l'univers, si vous n'en avez pas assez de Mass Effect après la trilogie, vous pouvez toujours vous faire ça, ça vous rappellera des petits moments sympas avec des personnages que vous voyez pas souvent, genre le capitaine qu'on voit au tout début du premier. Plein de choses qui sont très intéressantes. Il y a un bel univers étendu sur Mass Effect, je trouve. Ce qui est assez rare pour du jeu vidéo.
Alors c'est un jeu qui a réussi à lancer complètement un univers étendu comme Halo l'avait fait 6 ans avant. C'est vraiment grosse force du jeu. Maintenant, tous ceux qui jouent un tout petit peu de Mass Effect peuvent parler entre eux de Mass Effect, alors que c'est de leurs aventures, de leur Shepard à eux, alors qu'on a tous un Shepard différent.
Effectivement. On va revenir juste vite fait sur cette polémique de la fin.
Ah oui.
Il y a eu effectivement, après 60 heures de jeu, on s'était imaginé que la fin serait inoubliable. Mais effectivement, le plus dur sur une œuvre, c'est vraiment de la terminer la plupart du temps. En gros.
Et pour faire plaisir à tout le monde.
Voilà. Ce sera du spoil, mais c'est pas grave, le jeu est vieux, c'est pas grave.
Si vous voulez pas être prévenu, évidemment.
Alerte spoiler, vous
revenez dans 5 minutes.
On
divulgage.
Voilà. En gros, la fin, ça correspond à quoi? Tu t'en rappelles, Tom?
Alors, dans la fin de Mass Effect 3, donc il va falloir que je résume un petit peu la série, forcément. Vas-y. Il se trouve que donc cette prédiction que nous a fait les moissonneurs était vraie, et donc ils arrivent pour détruire la galaxie. Ça, c'est la fin du 2. Là, je vous ai résumé 120 heures de jeu. Dans le 3, donc, ils arrivent, ils sont là, et donc ils attaquent la Terre, et le but, ça va être pendant tout le jeu de reprendre la Terre qu'on a dû fuir. Et on revient avec une arme qui est capable de les détruire. Sauf que à la fin, on nous donne en gros trois choix, soit de prendre le contrôle des moissonneurs, soit, si j'ai bonne mémoire, de détruire tous les moissonneurs, soit la réponse Day, qui va être en fait un choix, enfin une fin qui est soumise à certains critères qu'on peut pas avoir comme ça. Il faut avoir un petit peu de préparation galactique dans le jeu et avoir fait une ou deux quêtes annexes, et qui va nous permettre en gros de fusionner, de devenir un être supérieur. Et de pouvoir utiliser l'énergie des moissonneurs pour on sait pas trop quoi. Et en fait, il s'avère que ces fins-là nous montrent une cinématique où on voit un petit peu tout exploser dans le jeu, les relais cosmodésiques, donc qui permettent de se déplacer très très vite dans la galaxie, on les voit exploser, etc. Sauf qu'en fait, la fin ne change que la couleur des explosions. Alors que c'est le jeu des choix, toute la communication du jeu est basée sur les choix, et malheureusement on a eu quasiment que ça. Donc en fait, malheureusement, la Mass Effect 3, il y a pas mal de gens qui l'ont joué en se disant la fin ça va être génial, alors qu'en fait c'est tout le jeu la fin, et qui l'ont un petit peu mal pris, moi y compris. Justement, je n'arrive pas à finir Mass Effect 3 parce qu'on en a trop parlé, on a trop gâché cette fin, et voilà.
Ça fait un petit tollé de toute façon.
Ça fait un énorme tollé, à tel point que les développeurs ont changé leur fin. Et ça, c'était du jamais vu à l'époque. C'est-à-dire que les développeurs ont dit « Ah oui, ok, désolé, on est nul. » Ils ont changé la fin et fait une
dans
version
un DLC,
Director's Cut, qui n'est pas mieux. Mais
on
peut
en arriver à la question que j'avais avec Ferdi. Est-ce qu'une communauté de joueurs a le droit de demander à un auteur de changer son œuvre? Peu importe comment est l'œuvre. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que c'était justifié de pousser BioWare à revoir son œuvre, alors que pour lui, la fin de Mass Effect, c'était ça? Est-ce que pour vous, c'est normal?
Comme je te disais, il faut imaginer ça pareil dans un film. Quoi. On va voir un film
dans
au cinéma,
un roman, encore pire.
On gueule et puis on va retourner.
Moi, je suis pas d'accord du tout. Parce que, en fait, la différence entre les jeux vidéo et le ciné ou un bouquin, c'est justement l'interaction. Et qu'en fait, c'est comme par exemple, je sais pas, mais mettons un Star Wars, maintenant, qui est une saga genre, vraiment en culte à la fois, on va dire juste les films, maintenant, ça n'appartient plus que au réalisateur. Star Wars 7 n'appartient pas à J.J. Abrams, il appartient aussi à tous ceux qui sont arrivés avant, tous les fans, tous les gens, et c'est pareil.
Star Wars 8 va être pris en compte par rapport à ce que les fans ont aimé, pas aimé.
Par rapport à ce que les fans ont aimé, pas aimé. Donc, contrairement à d'autres films, etc. Et là, vu qu'on parle d'un gros jeu avec justement un univers étendu, avec des millions de fans qui ont fait des millions d'histoires, pour moi, c'était complètement justifié de dire on veut la fin dont on a le droit. Par exemple, un tout petit truc qu'ils ont rajouté, c'est le fait qu'on puisse dire non au choix final. On peut dire genre non, je choisirai pas.
Ce que j'avais fait.
J'ai pas envie de choisir, voilà. Et ça, c'est disponible que dans la version, Director's Cut. Donc pour moi, c'est entièrement justifié juste à cause de l'interaction. Si c'était un film, j'aurais complètement dit non. Ou un bouquin, ou la musique.
Par rapport au jeu vidéo.
D'accord. Voilà. Ok. Est-ce que vous avez un autre avis par ici?
Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et même, on peut retrouver en fait cette interaction avec la communauté et les développeurs déjà avec Star Citizen.
Oui.
Je pense que ça, c'est un exemple qu'on peut.
On va vous perdre tous les deux.
Non, mais c'est impressionnant.
Il faut le dire, il faut en parler.
Il faut en parler parce que la communauté a un rôle en fait au développement du jeu. Parce qu'en fait, les développeurs produisent un jeu pour les joueurs. Donc il faut en même temps que ça coïncide. Et là en fait le choix de cette fin là je trouve qu'il fallait faire quelque chose. Parce que là c'est n'importe quoi. On perd en fait le concept de choix. Et on se retrouve avec une fin qui est universelle à tous. Donc je trouve que ça fait une rupture.
C'était vraiment très décevant.
D'accord, bon, on va arrêter le débat là. On parlera de Mass Effect Andromeda la prochaine fois. Moi j'ai été un peu déçu. J'y reviendrai sur la prochaine émission.
Ce sera un débat animé.
Ce sera un débat animé, effectivement.
On peut dire qu'il sort jeudi.
On peut dire qu'il sort le 23.
Bah oui, c'est jeudi.
Si vous avez le EA Access, vous pouvez déjà y jouer.
Vous pouvez y jouer 10 heures, mais par contre le solo est très limité. Au bout de 2 heures de jeu, vous êtes au bout de la démo solo. Voilà, pour l'histoire.
Pour conclure, si vous êtes fan de Space Opera, vous n'avez pas joué à Mass Effect, jouez à Mass Effect. La trilogie, vous plus rien.
Je vais choquer du monde. Mais c'est Star Wars qui serait réussi pour moi. Mais c'est vrai. Voilà.
Julien sera mort.
Enchaîne, Julien. Dépêche-toi, je la retiens.
On va du coup passer au quiz. Ce sera la dernière chose que l'on fera dans cette émission aujourd'hui.
Ah oui, c'est vrai qu'on a le droit.
Multiples feuilles.
Ah, c'est qu'on a le droit durant ces génériques.
On lit nos propres feuilles de réponse, puisque tout ce quiz est truqué.
Mais dis pas ça. Moi j'ai le tableau, oui. Comme ça, c'est
ce qu'on va faire de l'argent qu'on a fait encore là.
Qui veut gagner aujourd'hui?
Qu'as-tu fait comme dessin aujourd'hui, Ferdi?
Pas beaucoup là, mais.
Ferdi nous a dessiné des motifs ésotériques et des animaux de planète hurlante.
J'ai dessiné et j'ai un peu les boules.
Une émission de bon goût.
C'est normal.
C'est la faute à la manette.
Et donc c'est parti pour le quiz qui sera consacré donc à la nourriture dans les jeux vidéo. Donc vous avez tous participé ici autour de cette table, hein. Vous avez tous une petite case magnifique là qui est là et que Ferdi va noter les points. Question numéro 1 du coup. Alors je peux te faire grandir ou te soigner, mais attention, je
champignons, Guillaume. Champignons,
il faut lever la main.
Allez, vas-y.
Oh là là.
Vas-y, allez. Sushi, c'est pour toi.
Et champignons.
Champignons 2.
Mario.
Mario, très bien, 2 points. Question numéro 2. Jaune, verte ou rose, je suis un atout charme pour mon héroïne. Que suis-je?
Sucette dans Bayonetta.
Oui, superbe, 2 points. Je pensais pas qu'on allait la trouver. Question numéro 3. Quel gâteau apparaît dans chaque épisode de Elder Scrolls?
Gâteau.
J'allais dire Portal.
Gâteau à la crème avec une cerise.
On va te l'autoriser. Il n'y a pas la cerise, mais c'est un gâteau à la crème.
Parce qu'il est dans la salle du trône, dans les choses comme ça.
J'allais dire, c'est aussi le nom d'un des épisodes de la série, le gâteau roulé Arena.
Ok. Enchaîne, s'il te plaît.
Question numéro 4. Afin de concevoir ce plat, vous devrez parcourir le monde pour récolter les ingrédients, prendre un cours auprès d'un spécialiste et en cas d'échec, tout recommencer. Qui est-il?
Alex Kidd, hamburger.
Raté. Alors c'est un jeu que j'ai dans mon sac, hein, que j'ai montré à Ferdi.
Ridge Racer.
Et non, c'est l'autre jeu sur lequel tu as passé des centaines d'heures qui t'a fait rater ton bac.
Ah, ça doit être No Man's Sky.
Ferdi, tu l'as dit tout à l'heure.
Breath of Fire 3.
C'est le sushi légendaire.
Ah.
3 points. Question numéro 5 pour 3 points aussi. Seule boisson potable de la région et non radioactive, mon créateur porte le nom de...
Guillaume, le Nuka-Cola.
Le Nuka-Cola.
Alors, objection, c'est radioactif, le Nuka-Cola. Ça donne 3 rades.
C'est léger, hein.
Question numéro 6. Je permets à celui qui me mange d'être invincible et que mes ennemis aient d'un coup peur de moi.
Gomme.
La gomme de...
Le gomme de Pac-Man.
Oui, effectivement, 3 points. Question numéro 7. Vous ferez tout pour pouvoir en goûter une bouchée. Vous affronterez la technologie, vous perdrez votre compagnon de jeu, mais est-ce un mensonge?
Guillaume, le cake is a lie de Portal.
Effectivement, 4 points pour toi, Guillaume.
Bravo.
Question numéro 8. Alors là, je vais demander une réponse à tout le monde. Combien y a-t-il de plats cuisinés possibles dans Zelda Breath of the Wild? Il y en a énormément. Je vais prendre la réponse de tout le monde. Ce sera le plus près qui gagnera. Sushi.
Alors on va dire 250.
250.
500.
500.
Je vais dire moins, je vais dire 150.
150.
99.
99.
42.
Et c'est Ferdi qui est le plus proche. C'était 122, ce qui est 122. Déjà pas mal, ma foi.
Je suis triste. Je suis triste.
Combien de points?
Mais est-ce que tu as compté est-ce que tu as compté aussi tous les fails que tu peux faire en cuisine?
Oui.
Ah, bon,
tout
d'accord.
Est résumé, j'ai un guide à la maison. Hein. Question numéro 9. Quel est le prix d'un giga bœuf burger dans la chaîne de restaurant Burger Shot dans GTA Vice City et San Andreas?
Oh là là.
Alors je crois que c'est genre...
C'est 20, non?
Ouais.
Guillaume, 20.
20.
Je dirais 20 aussi.
20.
Ouais.
Je vais dire 12.
12.
À 42.
Ferdi?
50.
50. Personne. Ok, alors c'était 10$, donc c'est Tom qui est le plus proche, 4 points. Il me reste une dernière question. Quels sont les différents types de boissons que l'on pourra vous servir au bar dans le jeu Catherine?
Ah, alors...
Guillaume. Un cocktail, une bière,
ouais.
Un shot, et... Une bière... et un...
Raté, Guillaume.
Soda.
Tom. Alors, un saké,
ouais.
De la bière,
ouais.
Un cocktail,
ouais.
Et du rhum.
C'est un whisky. C'était du whisky. Bon,
c'était
allez,
du whisky.
On t'autorise 2 points. Je donne 2 points c'est... à Tom et 1 point à Guillaume, parce que pour l'effort.
Bah, quand même, j'ai dit 2 trucs.
Et alors, qui a gagné, mon petit...
C'est moi avec 12 points.
Et bah, c'est toi, félicitations.
Après, c'est Guillaume avec 10, Tom avec 6, Mathis avec 2.
Ok,
wow.
Et ben impeccable. Bon bah du coup l'émission se termine, il est déjà 21h, ça passe super vite. La prochaine fois on vous parlera d'une série excellente qui est Persona, parce que Persona 5 sort le 4 avril, donc on va avoir besoin de vous en parler au
et de ses
moment.
dérivés, donc ça va être
de
une bonne émission,
c'est une très bonne
Shin
émission.
Megami Tensei,
Shin Megami Tensei, on va y revenir, on vous tient au courant sur les réseaux sociaux quoi qu'il arrive. On vous souhaite une bonne soirée, on vous dit à bientôt, des bisous,
on vous fait 999 bisous,
à plus.
Ciao.
bisous.